Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous, c'est la grogne sur la place Maïdan à Kiev en Ukraine. 4 ans après la révolution qui a débouché sur une guerre à l'est du pays, les Ukrainiens disent à nouveau leur mécontentement, celui d'un pays où les réformes s'enlisent. Devant le Parlement, ils ont installé des tentes en espérant que leur colère ne sera pas confisquée par des intérêts politiques particuliers. C'est le reportage à Kiev de Sébastien Gobert.
Ce dimanche 19 novembre, devant le Parlement, est organisée une vitché, un de ces rassemblements hebdomadaires de l'opposition politique. Devant la scène, à peine quelques centaines de manifestants, pour beaucoup des personnes âgées et des hommes en uniforme. Au micro et à la tête de la contestation, Mikhail Saakashvili, l'ancien président géorgien, ancien gouverneur de la région ukrainienne d'Odessa, et aujourd'hui opposant engagé dans une lutte sans merci contre le président Petro Poroshenko. Il affirme qu'il parle au nom des Ukrainiens et d'une opposition unie, mais cette manifestation, c'est avant tout la sienne. Le camp de tente qui est dressé autour du Parlement, c'est le sien. Violeta Moscalou a passé la plupart de sa vie en France et s'est engagée dans la société civile en Ukraine à partir de 2014. Elle vient tout juste de rallier le mouvement de protestation, même si elle ne se dit pas très proche de Mikhail Saakashvili.
Quelle que soit l'attitude que l'Ukrainien lambda puisse avoir par rapport à celui qui est à la tête de ce courant, de cette opposition aujourd'hui, la seule vraie opposition, honnêtement, en Ukraine, donc notamment Mikhail Saakashvili, et peu importe si on l'aime ou on l'aime pas, du point de vue des droits de l'homme, ce qui se passe est plus qu'inquiétant.
Au cœur des revendications du mouvement, une réforme du code électoral, la fin de l'immunité des parlementaires et la création d'une haute cour anticorruption. Pour Violeta Moscalou, Petro Poroshenko est devenu l'un des principaux acteurs de la corruption en Ukraine.
Au lieu de lutter contre les politiques les plus corrompus, on lutte contre les activistes qui combattent la corruption ou bien contre les opposants politiques qui dénoncent la corruption. Donc si on laisse aujourd'hui écraser Saakashvili et son équipe, ça veut dire qu'il n'y a pas d'avenir pour la jeunesse en Ukraine. On est très inquiets par le fait que le pouvoir ukrainien va crescendo dans le du point de vue de non-respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme la liberté de la presse.
Ce dimanche, l'Assemblée est agitée par les nouvelles d'arrestations arbitraires et d'expulsions d'associés de Mikhail Saakashvili. En tout, 8 Géorgiens, dont un journaliste, ont été arrêtés sans sommation entre octobre et novembre, en pleine rue ou dans leur appartement. Certains ont été battus, transportés avec des sacs sur la tête. Tous ont été expulsés vers la Géorgie. Pour les autorités, il s'agissait de prévenir un coup d'État. Mais les défenseurs des droits de l'homme s'inquiètent. Même la médiatrice du Parlement sur les questions des droits de l'homme, Valeria Lutkovska, connue pour sa passivité, qualifie certaines de ces arrestations d'illégales.
Il a été prouvé que c'est la police nationale qui a kidnappé ces Géorgiens en octobre, alors qu'elle n'en avait pas l'autorité. Un mois plus tard, la police n'a toujours envoyé aucune réponse à mes questions.
Les autorités restent très évasives sur le sujet. Et de manière générale, elles commentent très peu ce mouvement de protestation qui est dénigré comme une aventure personnelle de Mikhail Saakashvili. Sur la scène ce dimanche, on rencontre le député d'opposition Sergueï Leshchenko, ancien journaliste en investigation. Lui aussi exprime une certaine distance vis-à-vis de Mikhail Saakashvili, mais quel que soit le mode de mobilisation, il ne veut pas abandonner la lutte contre le régime de Petro Poroshenko.
C'est important de maintenir un camp ici. Ce qu'il faut, c'est mobiliser de plus en plus de gens pour faire pression sur le Parlement. Mais ce n'est pas suffisant pour atteindre nos objectifs.
Les protestataires se gargarisent du fait que les parlementaires ont fait passer une réforme du code électoral en première lecture à cause de la pression de la rue. Mais en vérité, pas grand-chose ne se passe depuis l'installation du camp. Après 4 ans de guerre et de difficultés économiques, les Ukrainiens sont lassés de cette agitation politique qui n'améliore pas leur quotidien. Les Kieviens, eux, peste contre ce camp qui bloque une des rues principales du centre-ville et perturbe la circulation. Nous retournons dans le village de Tente un jour de semaine. Semen Semenchenko, député, vétéran, chef du bataillon Donbass et l'homme en charge du camp.
C'est une lutte de longue haleine, mais nous accomplirons nos objectifs, de la même manière que ce que vous, les Français, avez fait au XVIIIe et au XIXe siècle.
Je lui fais remarquer que les révolutions en France s'étaient faites dans le sang. Lui me répond que le sang a déjà coulé dans la guerre à l'Est. Est-ce qu'il coulera à Kiev ? Il ne l'exclut pas.
Ici, s'il y a une attaque en traître, alors oui, il y aura du sang. Mais on essaiera de l'éviter. On ne fait que se défendre.
Après la fin sanglante de la Révolution et des années de guerre, la plupart des commentateurs s'accordent à penser qu'une prochaine protestation de masse pourrait très rapidement devenir radicale et violente. Pour l'instant, la masse n'est pas au rendez-vous et il est difficile d'imaginer ce que ce camp peut devenir. Ce qui est sûr, c'est que c'est la première fois que l'opposition politique reprend le contrôle d'une partie de la rue depuis 2014. Et ce faisant, elle a pris acte que l'esprit de Maïdan n'est plus qu'un souvenir.
C'est un des derniers bastions de la liberté de la presse en Turquie. La télévision indépendante Mediascope vient d'ailleurs de recevoir le prix média de Reporters sans frontières dans un pays qui est désormais placé 155e sur 180 en termes de liberté de la presse. Mediascope est une plateforme en ligne qui propose des débats sans autocensure et loin de toute pression politique. C'est un grand journaliste turc, Ruşen Çakır, qui l'a lancé en 2015 et qui emploie aujourd'hui une trentaine de personnes pour des programmes en plusieurs langues. Anand Lauer s'est rendu dans leur studio.
Un hangar au mur de briques au milieu d'un quartier de réparateurs de voitures. Un plateau de télévision cerné de rideaux noirs au centre d'une grande pièce qui fait aussi cuisine et salle de réunion. Si les locaux de Mediascope ne ressemblent à ceux d'aucun autre média turc, c'est sans doute parce que cette plateforme n'a pas d'équivalent. À la fois site d'information et télévision diffusés en direct, puis en podcast sur les réseaux sociaux, Mediascope s'efforce avec peu de moyens de relever le niveau du journalisme turc, miné par l'autocensure, étouffé par la répression. Burak Tatari présente l'un des rendez-vous de la chaîne, le journal de 19h, du lundi au vendredi.
Nous sommes libres ici, et ce que nous faisons ici, c'est très important. Je crois parce que, comme vous savez, en Turquie, c'est très dur de faire journalisme, c'est presque impossible. Mais M. Ruşen Çakır, il a pensé que c'est encore possible.
Ruşen Çakır, le fondateur de Mediascope, a œuvré pendant des années dans les médias traditionnels. Chroniqueur respecté, il a créé cette plateforme en août 2015. Au début, c'était surtout pour diffuser des éditos qu'il filmait sur l'application mobile Periscope. Mais depuis janvier 2016 et son licenciement du journal Habertürk, Ruşen Çakır s'occupe à plein temps de Mediascope et a embauché en 2 ans une trentaine de personnes. Leur slogan « Çünkü özgür », traduction « parce que libre ». Libre non seulement des pressions politiques, mais aussi de la tyrannie de l'audience. Mediascope diffuse parfois des émissions sur des sujets très peu vendeurs. Ruşen Çakır donne un exemple.
Les problèmes des réfugiés, immigrés, on fait beaucoup de choses, mais on sait qu'il n'y a pas une vraie audience de ça, mais on croit que c'est important. C'est ça la liberté aussi, c'est pas seulement vis-à-vis de l'État, mais c'est aussi vis-à-vis les conditions ou bien les règles de médias ou de secteurs.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on a un entretien exclusif avec un politologue français très connu, M. Jean-François Bayard. Bienvenue, Monsieur Béard.
Merci beaucoup. Merci de votre accueil. Je suis très heureux d'être ici.
Mediascope diffuse du lundi au vendredi essentiellement des émissions sur presque tous les sujets. Politique, société, culture, sport. Sa force, faire débattre les meilleurs experts de Turquie que les médias traditionnels n'invitent plus sur leur plateau par peur de toute voix critique. Certains programmes sont en langue kurde, anglaise, allemande ou française. Beaucoup de studios donc et très peu de reportages. Un choix que justifie Ruşen Çakır.
Je ne veux pas parce que c'est un peu dangereux, alors c'est une responsabilité difficile en Turquie. La Turquie n'est pas un pays libre pour le journalisme, alors on est dans ce sens-là, on est prudent.
Mediascope redonne voix aux journalistes marginalisés par la répression et aux journalistes citoyens. La rédaction est jeune, la plupart des salariés ont la vingtaine ou la trentaine, sont diplômés de grandes universités, parlent au moins une langue étrangère. Et beaucoup ont appris le journalisme chez Mediascope. C'est le cas d'Aïché Guerren, 31 ans, qui travaillait auparavant dans la restauration.
Je regardais sur YouTube tout ce qu'il faisait et ça m'intéressait. Je me suis dit ça va être impossible, mais j'ai quand même envoyé un mail. Et j'ai dit je suis pas journaliste, mais je suis une bonne organisatrice. Je suis sûre que je peux vous aider. Et ils m'ont appelé.
Herkese merhaba. Bugün hayvan gazetesinde...
Aïché travaille en régie, mais elle présente aussi une émission chaque vendredi consacrée aux droits des animaux. Après 10 mois chez Mediascope, elle ne se voit plus faire autre chose.
J'adore ce que je fais. Et je voudrais apprendre plus de choses. Je voudrais aussi écrire, je voudrais faire plus d'émissions. Enfin, je vois mon avenir dans le journalisme, oui.
Hormis une interdiction de quelques heures après la tentative de putsch de juillet 2016, Mediascope reste épargné par la répression. Sans doute parce que cette plateforme, sans être confidentielle, est loin d'être un média de masse, suivi principalement par une classe moyenne éduquée. La chaîne vit grâce aux dotations de fondations étrangères, notamment américaines. Ses choix éditoriaux, son refus de céder à la propagande officielle et son audience de niche la privent de financements locaux. Rouchen Chaker.
On ne fait pas d'activisme ici, on fait que de journalisme. Mais en Turquie, faire seulement un journalisme simple aussi peut être dangereux. On ne peut pas gagner beaucoup d'argent, on est toujours dépendant au fond de l'étranger. Il y a des fonds en Turquie aussi, mais on ne peut pas les toucher parce qu'ils ne veulent pas risquer leur position.
Ces deux dernières années, la liberté de la presse s'est détériorée comme jamais. Paradoxalement, c'est dans ce climat délétère que Mediascope s'est développé. Rouchen Chaker se dit à la fois étonné de ce succès et satisfait d'avoir prouvé qu'un journalisme indépendant est encore possible en Turquie. Reste à voir jusqu'à quand.
Předčasem jsem vám nabídl svoji kandidaturu na prezidenta. Myslel jsem to s váma dobře.
Un peu plus d'un mois après les élections législatives, les Tchèques se préparent déjà aux présidentielles qui se tiendront en janvier prochain. Et c'est un personnage de fiction, héros d'une série télévisée qui fait beaucoup parler de lui. Un lobbyiste qui dénonce tous les travers de la classe politique et qui n'a pas sa langue dans sa poche. À Prague, Alexis Rosenzweig.
À en croire Tonda Blanik, sa candidature à la présidentielle s'est jouée à pas grand-chose. Il avait recueilli les milliers de signatures nécessaires, mais, je cite, son abruti d'assistant a oublié de les faire valider en temps et en heure. Le lobbyiste emploie toujours un langage fleuri pour parler de ou à ses collaborateurs et dans son téléphone, qu'il ne lâche que rarement. Au bout du fil, des politiciens surtout, pour lesquels il travaille ou contre lesquels il manigance des stratégies de communication toujours plus sophistiquées pour en diffamer un ou en censer un autre. Depuis 5 saisons, la série se base sur des affaires réelles qui secouent régulièrement la vie politique tchèque, toujours avec un rôle actif ou passif pour cet anti-héros qui ne croit à rien sauf à la corruptibilité de tous. Plusieurs hommes de l'ombre ont inspiré ce personnage, campé avec talent par l'acteur Marek Daniel, que ce soit des collaborateurs officieux ou des conseillers officiels, dont un proche d'un ex-premier ministre qui vient d'être écroué pour une affaire de rétrocommission dans un contrat d'armement. Refusé par la télévision publique, les vidéos de quelques minutes ont été produites par un portail internet et vues des dizaines de millions de fois. Les injures et les expressions employées par le lobbyiste animent les discussions en ville. C'est une célébrité à Prague, Tonda Blanik. Alors quand il vient au débat des vrais candidats à l'élection, tous viennent lui serrer la main et échangent quelques mots en souriant devant les caméras. Ils savent que c'est bon pour leur popularité, mais aussi que les images vont être utilisées dans le long métrage tourné en ce moment et dont la sortie est prévue dans quelques mois.
C'est un chiffre qui donne à penser, un chiffre qui n'est pas officiel mais qui a été obtenu le plus sérieusement du monde à partir des données collectées par les ONG. 40 000 migrants ont trouvé la mort au cours de ces 15 dernières années en voulant rejoindre l'Europe, morts dans le désert, sur la Méditerranée ou dans les camps. Voilà ce qu'on apprend dans le livre collectif « La mort aux frontières de l'Europe », retrouvé, identifié, commémoré. Un ouvrage coordonné par l'anthropologue Carolina Kobelinski qui a interviewé Juliette Garprand.
Les décès peuvent survenir depuis le début de la traversée, par exemple en traversant le désert du Sahara. Tous nos interlocuteurs n'ont raconté des histoires où ils ont dû laisser des compagnons de route dans le désert et continuer. Ils meurent de soif, des conditions terribles de la marche, de fatigue. Ils peuvent aussi mourir aux mains de groupes armés. Ils meurent également de maladies dans les campements.
En Libye notamment.
Les causes de décès sont diverses et elles surviennent effectivement tout au long du parcours. Pour arriver aux morts dont on a le plus parlé dernièrement, qui sont les décès qui surviennent en Méditerranée, à bord des bateaux de fortune, lors des naufrages.
Et même jusque sur le sol européen, en fait, vous l'expliquez.
Absolument. C'est aussi à l'intérieur des frontières européennes que l'on peut mourir, dans des lieux de privation de liberté, parfois, donc des centres de rétention, il est arrivé, dans des zones d'attente aux aéroports, en traversant aussi les frontières internes de l'Union européenne. Dans l'ouvrage, il y a toute une partie sur les morts à Calais, avec presque 200 personnes qui sont morte en tentant la traversée vers l'Angleterre.
Et donc, quand on parle de frontières, finalement, on ne peut pas s'arrêter à celle de l'Union européenne à proprement parler.
Effectivement, lorsqu'on parle de frontières, on ne parle pas seulement des frontières géographiques. D'une part, parce que l'Union européenne traite sans cesse de élargir ses frontières pour faire barrage aux migrants, donc ce qu'on appelle l'externalisation des frontières européennes, mais également parce que c'est pour arriver en Europe que l'on risque sa vie.
Donc revenons aux chiffres, on ne sait pas exactement combien de personnes finalement meurent de cette traversée, de ce voyage entrepris, mais vous écrivez dans le livre « Chiffrer permet de sortir de la logique du fait divers tragique pour faire de ces morts l'enjeu d'un problème public ». De quelle façon ?
Tout d'abord, il faut dire que il n'existe pas de chiffre officiel fourni par l'Union européenne des morts de la migration. Et les chiffres qui circulent, qui sont nombreux, sont le résultat d'enquêtes menées par des consortiums de journalistes, par des chercheurs, par des ONG, qui ont chiffré le nombre de décès à 40 000 jusqu'à l'année dernière. Et il nous semble que l'enjeu des chiffres est important, d'une part parce que ça permet justement de sortir de la logique qui dirait que les morts sont juste des accidents tragiques causés par des obstacles naturels, donc le désert ou les naufrages en mer, pour venir à l'essentiel qui est pour nous d'interroger qui est derrière ces morts et donc d'inviter à réfléchir sur ce que produit le régime des frontières, ce que produisent les politiques européennes en matière d'immigration. C'est-à-dire ne pas penser ces morts seulement comme le résultat des passeurs criminels et pour interroger vraiment à qui on peut imputer ces morts. Ces passeurs n'existeraient sans doute pas si les conditions d'accès au territoire européen étaient différentes. Les politiques actuelles créent l'espace pour qu'il existe des figures comme les passeurs.
Et vous dénoncez également l'image un peu simpliste du migrant qui prendrait des risques démesurés et finalement ce serait un peu de sa faute.
Toutes nos enquêtes, toutes les discussions que nous avons pu avoir avec des migrants venus de partout montrent bien que ces personnes savent très bien les risques qu'elles prennent lorsqu'elles s'embarquent dans le parcours migratoire. Elles savent très bien qu'elles peuvent mourir et pourtant elles décident de tenter leur chance, comme on dit souvent, parce que ils estiment qu'ils ne peuvent plus continuer à vivre là où ils sont, que ce soit pour cause de guerre, de famine, manque d'opportunités, etc.
Vous consacrez une partie du livre aux cérémonies de commémoration qui ont lieu principalement sur le sol européen. Vous en rapportez de nombreux exemples. Est-ce qu'elles sont aussi un enjeu politique ?
Elles sont à la fois un témoignage, un moment de partage qui permet de soulager la douleur, par exemple pour les survivants des naufrages, mais aussi ces cérémonies constituent un véritable enjeu politique dans la mesure où, à chaque fois, il s'agit de dénoncer le caractère mortifère des frontières, de rendre visibles ces morts et de mettre en avant la volonté de penser les politiques autrement.
La mort aux frontières de l'Europe, un livre collectif publié aux éditions Babel. Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Jérémy Bessé. Retrouvez-nous sur notre site RFI.fr et sur les réseaux sociaux. Restez à l'écoute de RFI dans quelques instants. Un nouveau point sur l'actualité.